Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, hey, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Dossier bizarre de cette semaine. Jason Lévesque en compagnie de M. Tristan Brunet-Dupont qui nous présente un sujet ce matin, ou ce soir, ou ce midi, ou cette nuit. Bonjour Tristan!
Bonjour Jason, ça va bien?
Ça va très bien toi-même?
Ben oui, ça va super bien, merci. Écoute, accrochez-vous, aujourd'hui on prend une fusée, on s'en va dans l'espace!
Oh! On recule pas dans le temps, on s'en va dans l'espace.
On va faire un beau voyage dans l'espace, on va se promener. Parce que là aujourd'hui, je l'avoue, j'ai choisi un sujet vraiment personnel.
Aha!
Qui me parle, on se gâte, hein, là, à un moment donné, je me suis dit, faut que je le fasse ce sujet-là. Parce que je veux parler des extraterrestres.
OK.
Mais moi, ce que je veux, là, je sais pas si t'es comme ça toi aussi, Jason, moi, j'aimerais ça que dans notre vivant, là,
ouais,
on découvre une preuve quelconque scientifique que les extraterrestres existent.
J'aimerais ça. Je dis pas que j'y crois particulièrement dans ce sens de dire ils sont parmi nous puis on les côtoie. Je suis relativement sceptique de nature. Mm-hmm. Ça n'empêche pas que oui, j'aimerais ça à un moment donné qu'on dise « Hey! » On a des images, là, puis il y en a des extraterrestres. On a la preuve ultime qu'il y en a. Fait que le fait de croire ou de pas croire et de penser que peut-être que ça pourrait arriver versus l'espoir que ça arrive, ça peut être deux affaires complètement différentes. Oui. Donc, on peut être très, très, très sceptique au niveau de dire, est-ce qu'ils nous visitent, les extraterrestres? Est-ce que, parce que, bon, on a des gens qui envoient des secoupes volantes ou des ovnis, des gens qui disent qu'ils sont enlevés par les extraterrestres. Il y en a régulièrement de ça. Et on les croit pas nécessairement, mais de dire hey, est-ce qu'on est seul dans l'univers, je suis pas certain. Est-ce qu'on va découvrir une forme de vie d'un monde vivant? J'aimerais ça.
Ben c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. On parlera pas des témoignages, on va parler de les études scientifiques, en fait, au niveau scientifique, pragmatique, là, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en 2020 sur l'étude des autres mondes?
OK. Donc,
on va aller voir le télescope Kepler, la mission Kepler, où on a eu des résultats. Il y a eu 10 ans d'études sur les exoplanètes. Et on va parler aussi des radiotélescopes, les fameuses grosses antennes.
Les grosses soucoupes tournées vers le ciel.
Exactement. Donc, on va vraiment voir qu'est-ce que l'humanité fait aujourd'hui en 2020 pour découvrir, pour trouver une autre forme de vie ailleurs dans l'univers. On n'a pas encore trouvé, mais on a tous les outils.
On travaille fort, pareil. Il y a énormément de ressources scientifiques qui sont en place dans l'espoir d'un moment donné, sans nécessairement aller jaser avec eux autres, mais de découvrir que oui, il y a peut-être une forme de vie intelligente ailleurs dans l'univers que sur la Terre. Et ça fait depuis plusieurs années qu'on fait des recherches dans ce sens-là. Mm-hmm. Et encore en 2020, il y a énormément de ressources qui sont en place dans l'espoir de découvrir peut-être éventuellement une autre forme de vie.
Exactement. Et ça y va vraiment avec l'avancée de Internet, des ordinateurs, des télescopes. L'avancée technologique s'est faite de manière fulgurante. Et aujourd'hui, là, même, je lisais là, hier mes infos et tout, puis j'étais comme, ben voyons donc, je ne savais pas qu'on était rendu aussi loin dans cette tranche de science-là. Alors, on débute. Allons-y.
Ben oui, allons-y.
Avec Kepler. On va commencer par Kepler. Moi, ça me passionne beaucoup cette mission-là du télescope Kepler parce qu'il a été lancé en 2009. Et je me rappelle très bien, j'étais tombé sur un document scientifique en 2009. J'étais quand même plutôt jeune, un jeune adolescent. Et puis, j'avais trouvé les informations du télescope qui avait été lancé pour trouver des planètes dans notre galaxie, la Voie lactée. On parle de recherche de planètes telluriques, donc comme la Terre.
Aha!
C'était la mission. Alors, Kepler, c'est un télescope spatial développé par l'Agence spatiale américaine, la NASA, pour détecter des exoplanètes. Kepler a pour objectif d'effectuer un recensement des exoplanètes détectables situées dans une région de la Voie lactée. On ne parle pas de toute la Voie lactée, juste une petite région de 115 degrés carrés. En gros, là, c'est vraiment une tout petite.
C'est vraiment pas beaucoup, parce que la Voie lactée, là, je ne sais pas si vous avez déjà été dans le bois, quand il fait complètement noir, qu'il n'y a aucune pollution lumineuse. Parce que bon, cet été, nous, on avait un chalet là, dans une région où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, la ville la plus près est à plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres, zéro pollution lumineuse. Ce qui veut dire que quand le ciel était dégagé puis on sortait à l'extérieur, on avait de la difficulté à trouver la grande ourse, tellement il y avait d'étoiles dans le ciel. On voyait la Voie lactée, là. On voyait vraiment la trace dans le ciel qu'est la Voie lactée. C'est gigantesque. C'est, on peut même pas concevoir, là, dans notre imagination, on n'est même pas capable de concevoir la taille de cette chose-là, tellement c'est énorme. Fait qu'on peut pas chercher à la grandeur de la place, là, ça n'a pas de sens. On pourrait pas tenter de trouver des planètes dans tout cet espace-là. Exactement. C'est beaucoup trop grand. Alors, on s'est concentré sur un petit, minuscule secteur de la Voie lactée.
Une aiguille dans une botte de foin.
Voilà.
C'est vraiment un minuscule secteur, mais qu'on a pu étudier minutieusement pendant 10 ans. Kepler, le télescope était conçu là, pour durer 3,5 ans. Finalement, ben, la technologie était tellement bonne qu'on l'a utilisé jusqu'en octobre 2018.
Okay.
Donc, de 2009 à 2018. Donc, on a pu trouver beaucoup plus de planètes, d'exoplanètes que ce que l'on pensait. Et la technique là, utilisée pour détecter des exoplanètes, c'est la technique de transit. Cette méthode consiste à identifier et mesurer l'affaiblissement de l'intensité lumineuse d'une étoile lorsque la planète s'interpose entre l'observateur et l'astre.
Oh, OK, ça commence à être complexe.
Donc, tu sais, on la voit pas. On trouve pas la planète avec le télescope. Ah, une autre planète. Ah, il y en a une autre là. Ah, il y en a une autre. Non, il faut vraiment mettre le télescope vis-à-vis l'étoile et attendre que la planète passe devant. Et là, ça va créer un affaiblissement lumineux. Et là, on va pouvoir détecter justement, c'est de l'optique,
ben
c'est,
oui,
là,
hein,
au niveau de la physique.
C'est quand même assez impressionnant de voir, oh, ça a diminué de temps, de pourcentage, donc la planète a telle taille, est à telle distance. C'est incroyable qu'on réussisse à calculer tout ça juste avec le fait que, oh, elle a passé en avant.
C'est la méthode des transits planétaires.
Eh bien, c'est intéressant ça.
Et c'est Frank Rosenblatt qui évalue la probabilité de détection d'une exoplanète en 1971.
OK.
Seulement, la technologie n'était pas encore assez avancée à l'époque. Donc, lui, il avait évalué que c'était possible.
Il avait déjà imaginé comment calculer tout ça.
Exact.
Sans même que ce soit possible technologiquement de le faire.
Exactement.
Wow.
Donc, il fallait attendre la fin du 20e siècle là, pour justement commencer à vraiment utiliser cette méthode. Il souligne que cette méthode permet de déterminer le rayon et la période orbitale de la planète. Donc, on peut déterminer sa taille et le nombre de jours que ça prend pour qu'elle fasse le tour du Soleil.
Hey boy.
Donc, on peut déterminer l'année des exoplanètes, là, combien de temps que ça prend pour un an, là, de faire un an de chaque exoplanète. Donc, sa taille et son orbite. C'est quand même...
C'est des calculs assez impressionnants. Là. J'ai de la misère à me souvenir. Je suis content quand je me souviens de mon numéro de téléphone. Moi, lui, avant même d'avoir la technologie pour le faire, était capable de calculer tout ça.
Ben, c'est ça.
On est à un autre niveau. Là.
Ouais, exact. T'sais, pour les gens qui se poseraient la question, moi, même avant 2009, on se disait, ah, tu sais, y en a-tu beaucoup des planètes telluriques comme la nôtre dans l'univers? Eh bien, juste dans la petite aiguille là, d'analyse qu'on a faite.
Tout petit secteur-là.
Les résultats sont fulgurants.
OK.
Parlons des résultats, justement,
ben oui,
de la mission Kepler. La majorité des exoplanètes découvertes avant la mission Kepler étaient de la taille de Jupiter ou encore plus grande.
OK.
Kepler a démontré que la plupart des exoplanètes étaient en fait plus petites que Jupiter et même que Saturne. Donc,
okay,
on a découvert ça. Les planètes les plus fréquentes ont une taille comprise entre celle de la Terre et celle de Neptune. Ces planètes sont soit des super-Terres, c'est-à-dire des planètes rocheuses plus grandes que la Terre. Donc, des super-Terres, c'est des planètes rocheuses,
okay,
plus grandes que la Terre. Ou soit des mini-Neptunes, qu'on les appelle. Ça, c'est des planètes qui sont... c'est-à-dire des planètes gazeuses avec un cœur rocheux. Selon certains planétologues, quelques-unes de ces super-Terres pourraient être des planètes océaniques ou des planètes comportant un noyau glacé ou rocheux recouvert d'eau.
Ah!
Donc ça, c'est des hypothèses, bien sûr, selon les scientifiques. Ces planètes-là ont tout pour avoir de l'eau, peut-être de la glace.
Et qui dit eau, habituellement, dit vie.
Exactement. Exactement.
Parce que les planètes gazeuses, j'imagine qu'on peut pas nécessairement anticiper qu'il y ait de la vie possible sur ces planètes-là. Quoique, qui dit qu'il n'y a peut-être pas une forme de vie qui vit sur des planètes gazeuses? On se confine, on se met un carcan tellement on s'attend à avoir de la vie intelligente ailleurs qui va être similaire à la nôtre, mm-hmm. alors que peut-être qu'il y a des formes de vie qui sont capables de vivre dans d'autres conditions complètement différentes des nôtres également.
Ah, c'est vrai, pour avoir une sorte de bactérie qui vit dans l'air gazeuse, non, toxique des planètes, on le sait pas. Deux résultats incroyables de la mission.
Oui, c'est ça, les résultats de la mission Kepler. Alors, finalement, on n'avait pas vraiment d'idée précise avant cette mission-là. On disait, bon, ben probablement que c'est des très grosses planètes gazeuses, mais avec ça, on a réussi à trouver d'autres résultats.
Exact. Et là, nous autres, Jason, oui. notre planète, on a une grosse année. On a beaucoup de jours dans une année.
Oui, oui, oui.
C'est pas la norme dans l'univers.
Ah non?
Non, on est plutôt exceptionnel par rapport à ça. Notre année est longue. En général, les planètes telluriques, on a découvert avec Kepler que la majorité des planètes avaient une période orbitale très courte, bien inférieure à celle de Mercure, donc de 88 jours. Mercure, c'est 88 jours. Okay. Et la plupart des planètes, on parle de 40 jours, 50 jours, 60 jours. Donc, les planètes font en général le tour du Soleil d'une manière beaucoup plus vite que la Terre. Donc, c'est nous qui n'est pas normal.
Ben non,
365
c'est ça.
Jours.
Ben ouais.
On est là.
C'est spécial, pareil, que les orbites soient si rapides que ça.
Et là, j'arrive à le chiffre.
Oui.
Combien tu penses, Jason, qu'on a découvert d'exoplanètes?
Ah, mon Dieu Seigneur. Peut-être une centaine.
2525 exoplanètes.
Oh, je suis même pas proche.
Alors, après 10 ans de recherche, on a découvert 2525 exoplanètes.
Dans une toute petite place. Là. C'est minuscule ce qu'on a étudié. Alors, si on étend ça à la grandeur de la Voie lactée, ça doit être un chiffre épouvantable. Là.
Exact.
Si on fait le calcul où on l'étend sur toute la surface, ça doit être énorme.
Ah non, vraiment. Puis là, dans le fond, je vais y aller avec quelques faits spécifiques
oui.
de chaque découverte. Par exemple, le système solaire Kepler-4, ça, c'est le premier système solaire que Kepler a découvert.
D'accord.
Et la première détection d'une exoplanète de la mission, c'est en janvier 2010, et c'est la planète Kepler-4b. Donc ça, c'est la première. Sinon, on a aussi quelque chose de très intéressant. Là, dans les dernières découvertes, c'est Kepler-90, le système solaire Kepler-90. Le système contient 8 planètes.
Okay.
C'est-à-dire, à cette date, c'est le seul système extrasolaire connu pour en héberger autant.
Okay.
Donc, c'est le premier système solaire qu'on découvre ailleurs dans l'univers qui a pratiquement autant de planètes.
Ben, c'est ça, c'est un peu similaire à nous autres, ça. Là.
Et bien qu'environ une douzaine de planètes seulement ont été formellement identifiées dans une zone habitable, le télescope, ça c'est avant Kepler,
oui.
On avait détecté 12 planètes dans la zone habitable. Kepler a découvert sur les 2000 quelques planètes qu'il y avait 54 planètes candidates potentielles qui étaient dans une zone habitable.
OK.
Donc là, on parle d'une zone viable.
Oui, c'est ça, parce que là, on parle d'exoplanètes. Les exoplanètes, c'est des planètes qui sont en dehors de notre système à nous.
Mm-hmm, exactement.
Donc ça, c'est en dehors de notre mm-hmm. système solaire, là, les planètes qu'on connaît déjà. Donc, on a découvert qu'il y avait des étoiles avec des planètes qui gravitaient autour. Et dans ces planètes-là, on en a découvert une cinquantaine qui potentiellement seraient dans une zone habitable.
C'est ça. Fait que dans la petite tranche de la Voie lactée qu'on a étudiée pendant 10 ans, on a découvert 2525 exoplanètes.
Okay.
Et sur les 2525 exoplanètes, on a découvert 54 planètes qui étaient dans une zone habitable, donc à la distance idéale entre le Soleil de leur étoile, dans le fond, pour avoir possiblement une atmosphère et peut-être de l'eau liquide. Donc, si elle était trop loin, il faisait trop froid, donc l'eau est en glace.
Oui,
si
ben c'est
trop,
ça.
Si elle est trop près, ben là, c'est de la lave, c'est le chaos et tout ça.
C'est une petite zone, ça, autour d'une étoile qui n'est pas très grande et la mm-hmm. planète doit avoir son orbite complètement à l'intérieur de cette zone-là pour être considérée comme habitable.
Exactement.
Je me souviens, j'ai vu un documentaire il y a très, très longtemps. Il appelait ça en anglais le Goldilocks Zone ou la zone boucle d'or.
Okay.
Pas trop froid, pas trop chaud. On compare un peu avec le conte pour enfants, oui. là, avec les boucles oui. d'or et les ours. Le gruau qui est trop chaud, le gruau ouais. qui est trop froid, le gruau parfait.
Oui.
Ben, c'est un peu, on s'est basé là-dessus pour nommer cette zone-là autour d'une étoile la zone boucle d'or.
Ah, c'est
donc,
vrai.
La température est parfaite. Et en ayant la température parfaite, ce qui veut dire que l'eau peut être à l'état liquide mm-hmm. Et si l'eau est à l'état liquide, ben, elle peut provoquer de la condensation, provoquer un oxygène ou de l'oxygène ou une atmosphère respirable. Mm-hmm. Et ça peut provoquer la vie, avoir à peu près la même soupe originelle qu'il y a eu sur la Terre qui a provoqué la vie. Mais cette zone-là est minuscule et c'est un peu comme une loterie, justement, quand ils découvrent des planètes comme ça, de dire est-ce qu'elle est dans cette fameuse zone boucle d'or où là, la vie pourrait s'établir sur cette planète-là.
Ah non, c'est exactement ça. Ça ouvre les yeux quand même sur le nombre de possibilités, tu sais, d'avoir des planètes habitables dans notre galaxie. Et pour vous donner une idée rapide, là, pour les gens, pour les sceptiques là, qui pensent qu'il y a encore... moi aussi, je suis sceptique. Mais pour les gens qui se disent, moi, je suis sûr à 100% qu'il n'y a aucune autre
on
forme
est
de
seul.
Vie.
Ouais, on est tout seul.
Dans l'univers tout entier. Eh bien, attendez, je vais vous dire un chiffre qui va sûrement vous changer d'avis. On a eu une estimation sur, justement... la petite tranche de notre Voie lactée qu'on a étudiée, mathématiquement, on a fait les calculs, et à la grandeur de notre galaxie, à nous, la Voie lactée, au niveau, bon, on a fait les calculs, et il y aurait donc 500 millions de planètes dans les zones habitables dans notre galaxie.
Là, on part de 50 quelques sur cette petite zone-là, et on a fait le calcul, donc si on étend ce chiffre-là, avec, mettons que c'est 0,1% de la Voie lactée qu'on a étudiée, on étend ça à 100% de la Voie lactée, on arrive à 500 millions.
500 millions de planètes dans une zone habitable.
C'est énorme. Donc, ça veut dire que finalement, ce qu'on a étudié, c'est un peu si je prends mon salon chez nous, c'est l'équivalent d'un grain de sable dans mon salon, c'est ça qu'on a étudié, et là... On pourrait pas mettre étendre ça à la grandeur de la surface du plancher de ma salle de télévision. Et là, j'arrive avec un chiffre comme ça. Donc, ça, c'est des planètes potentiellement habitables, le 500 millions. C'est pas juste des planètes, c'est des planètes dans la zone boucle d'or habitable.
Je viens d'avoir un frisson, tu
sais. Ben, c'est ça, moi aussi. Là, c'est comme mon cerveau, il fait comme... Il essaie de calculer tout ça, puis ça marche juste pas dans ma tête.
Tu sais, quand on pense que... quand on regarde ce chiffre-là, là, c'est comme... OK, ben là, c'est clair là, que j'ai d'autres vies ailleurs.
Ben, c'est mais, mettons que les chances sont bonnes.
Oui, les chances sont bonnes, exact. Puis ça, c'est juste dans notre galaxie. On sait qu'il y a juste dans même infinie galaxies dans l'univers.
Ben, c'est ça, là, des galaxies, il y en a. Quand on regarde le ciel étoilé, en fait, on en voit des galaxies. On ne le réalise pas nécessairement, mais une étoile qu'on peut voir, si on avait un télescope et qu'on était dans l'obscurité complète et totale, on pourrait voir que c'est comme un petit nuage d'étoiles qui est une galaxie. Et cette galaxie-là peut être aussi grande que notre Voie lactée ici.
Exact.
Il y en a plein, plein, plein. Donc là, c'est 500 millions juste dans notre salon. Mais là, c'est une ville au complet qu'on a. Là. Fait que chaque salon, chaque pièce de chaque maison dans la ville représente une galaxie qui a autant de planètes habitables. C'est infini. Là.
On pourrait dire là, carrément là, qu'il y a des milliards de milliards de milliards de planètes habitables, dans le fond, dans l'univers.
C'est incroyable, ces chiffres-là.
Donc Kepler, le télescope Kepler, il a vraiment fait avancer tout ce qu'on a comme vision dans l'univers.
Ben, c'est ça là, qui devient un peu, je trouve. Je suis très terre à terre, je suis un sceptique de nature. Moi, si quelqu'un me dit, il y a un fantôme chez nous, je dis, ben, montre-moi là. Je ne croirais pas sur parole, malheureusement, parce que mon côté sceptique va faire j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de quoi je peux toucher, de quoi de tangible. Et avec les extraterrestres, c'est la même chose. Je veux dire, on a tellement de rapports de gens qui disent, il y a des extraterrestres, j'en ai vu, je le sais qu'il y en a, blablabla. Encore là, amène-moi quelque chose de concret. Là, on se rapproche du concret.
Ben oui, c'est ça.
On s'en rapproche là, du
c'est
concret.
Ça,
là.
Pour ça, je voulais faire une émission spéciale là-dessus. Moi, je suis très pragmatique aussi dans la vie. Puis ce que je voulais, c'est vraiment, tu sais, au niveau scientifique, qu'est-ce qui pourrait nous faire croire? Qu'est-ce qui pourrait, en fait... Il y a combien de chances dans l'univers qu'il y ait des extraterrestres? Ben, ça nous donne une idée.
On voit là, que les possibilités ont augmenté grandement avec ces découvertes-là.
Et avant peut-être de poursuivre avec une courte pause, mais pour donner une idée, ça a donné le goût aux humains d'avoir des contacts radio.
Ben oui!
Alors après, on va parler des radiotélescopes.
Et les radiotélescopes qui, eux, existent depuis pas mal plus longtemps que le télescope Kepler.
Exact.
Juste comme ça, avant d'aller à la pause, le télescope Kepler, c'est un satellite? C'était quoi qui était dans...
C'est un télescope. Un télescope qui a été envoyé un peu comme Hubble, qui a été envoyé en 2009 avec une fusée dans l'espace. Et ce télescope-là est en orbite autour de la Terre depuis 10 ans, justement.
Donc, c'est pas un télescope terrestre là, comme les observatoires classiques qu'on connaît là, un peu partout dans le monde. Il est dans l'espace, télescope, et il est en orbite autour de la Terre.
Exact. Et fait pertinent par rapport à ça, en faisant mes recherches hier, tu en parles, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Dans les années 1970, on a découvert la méthode de transit. On a essayé de faire la méthode avec des télescopes terrestres, mais l'atmosphère...
Ah,
brouillait les images.
Ça,
parce qu'il y avait trop de particules
dans distorsion
l'air.
Distorsion de la luminosité qui faisait qu'on pouvait pas bien l'étudier à cause de l'atmosphère. Ah,
donc, on s'est rendu compte,
c'est logique ça.
On s'est rendu compte qu'il fallait absolument être dans l'orbite pour justement qu'il n'y ait aucune particule.
Et à cette époque-là, on ne pouvait pas encore envoyer de satellites dans l'espace. Alors, on a dû attendre avant d'appliquer les principes du monsieur pas mal plus brillant que moi qui a découvert tout ça.
le physicien Frank Rosenblatt.
Ah, ben, hey, on lui souhaite une bonne journée. Alors, on va faire une pause, Tristan. On revient tout de suite après. Très, très, très passionnant comme sujet, vraiment. Là, on sort un peu des sentiers battus de ce qu'on a fait à la date parce qu'on s'en va vraiment dans un monde scientifique très poussé. Ça reste quand même que ça ouvre la porte au mystère.
Oui, exact.
Excellent, on se retrouve tout après la pause.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Message d'intérêt public.
En cette période de risque de contamination du coronavirus, nous vous suggérons très fortement de limiter les contacts physiques entre les personnes. Nous vous suggérons de remplacer la traditionnelle poignée de main, le câlin ou le bisou par un petit coup de coude, un vigoureux coup de pied dans le tibia ou un bon coup de bottine dans la fourche. En plus d'augmenter la sécurité et de freiner la propagation du virus, ces mesures rendront votre arrivée au bureau beaucoup plus divertissante.
On est de retour à l'émission Dossier Bizarre. Et c'est un dossier, on en parlait là, durant la pause, Tristan, parce qu'évidemment, la pause dure 22 minutes. On en parlait, mais c'est un sujet, ça reste dans le mystérieux, ça reste dans le fantaisiste un petit peu, mais en même temps, je pense que c'est la première fois qu'on aborde d'une manière aussi poussée scientifiquement un sujet qui... Je te dis, je sais pas, je suis comme ambigu, ouais. Là, ambivalent. Là. Je me dis, ben oui, mais là... OK, on parle des extraterrestres, on a parlé, bon, la théorie des anciens astronautes, on riait de ça avec le monsieur qui a l'air d'avoir explosé son barbecue dans sa face. C'est cocasse, c'est drôle un peu, c'est facile de défaire un peu leur théorie puis tout ça, puis on le prend des fois un peu à la légère. Mais là, c'est comme, ben là, mon cerveau, il a comme de la misère à accepter le fait que, on n'a pas de preuves concrètes, mais on n'a comme pas le choix d'admettre que les chances sont pas mal bonnes.
Exactement, mais moi, c'est ça, je suis très, très pragmatique dans la vie, puis j'ai... Excuse-moi, peut-être monter le volume un peu de mes écouteurs.
Oui. On y va. Je sais plus.
Excellent.
Hey,
génial, hey. Excellent.
Ah, hey. On est en direct, hey, mesdames et messieurs.
Alors oui, aujourd'hui, là, écoute, ça laisse aller l'imagination parce que on s'amuse avec les chiffres, les études scientifiques. Moi, je suis très pragmatique. Je veux des preuves. Je veux des preuves concrètes.
Oui, ben c'est ça.
Puis c'est pas le témoignage de mon oncle Tiffan dans son chalet qui dit « Moi, j'ai vu un OVNI en 1952. »
Il y avait un collant Molson dessus, puis là, ça, c'était un Zamboni, finalement.
Par contre, le télescope Kepler, que ça fait 10 ans qu'il est en orbite, qui lui me dit qu'il y a qu'il y a 500 millions de planètes.
Il a pas ramené des images d'un extraterrestre qui s'en va faire son épicerie,
non.
Mais on est presque rendu là dans un sens où...
Tant qu'à moi, on a des chiffres qui font plus peur que les témoignages.
Ben, c'est ça. C'est comme difficile de nier que les chances sont excellentes qu'il y ait au moins une de ces planètes-là qui ait une forme de vie qui est peut-être pas aussi évoluée que nous autres, peut-être plus évoluée que nous autres, peut-être, on le sait pas à quel niveau d'évolution ils sont rendus, mais qu'il y ait de la vie potentielle. On en parlait, c'est peut-être juste des bactéries qui dans 2000 ans vont devenir des êtres intelligents, mais de nier complètement qu'il peut avoir une autre forme de vie quelque part, qu'elle soit intelligente ou non, rendu là, c'est presque... on peut presque plus le nier. Là.
Exactement. Je le rappelle vite, on a découvert 2525 exoplanètes avec Kepler, des planètes qu'on a nommées, qu'on a découvert la taille et le nombre de jours que ça prend pour faire une année complète. Donc, 2525 exoplanètes qu'on a vraiment quand même pas mal d'informations.
Oui.
Et dans la petite tranche de notre galaxie qu'on a étudiée, on a fait l'estimation... parce que qu'il y avait, en gros, il y avait à peu près une cinquantaine de planètes habitables sur les 2525, donc à l'échelle...
Qui ont les conditions propices à avoir la vie sur ces planètes.
C'est ça, à une distance idéale du Soleil pour avoir de l'eau liquide, une atmosphère. Eh bien, avec les calculs, à l'échelle de notre galaxie tout entière, on pourrait avoir à peu près 500 millions de planètes habitables dans notre galaxie.
C'est beaucoup! C'est beaucoup pour une toute petite fraction de l'univers qui est notre galaxie. C'est minuscule, c'est une poussière, là, notre galaxie, là, dans tout l'univers. Mais juste dans cette poussière-là, il y a 500 millions de planètes potentiellement habitables.
Alors, là, on est rendu à l'époque où...
C'est trop gros, là, on dirait que j'ai le vertige, là.
Mais là, attention, on va s'amuser un peu, parce que là, ce qu'on pourrait peut-être... Tu sais, moi, je pense pas, là, Jason, que de notre vivant, là, je pense pas qu'on... qu'on aille une preuve visuelle.
Je pense pas qu'on va avoir des ambassadeurs qui vont aller dans d'autres communautés, dans l'univers, quelque part, pour aller jaser avec eux autres, puis peut-être faire des marchés commerciaux, des affaires comme ça. Je pense pas qu'on en arrive là de notre vivant.
Exactement. Par contre, une preuve radio.
Oui.
Ça, ça pourrait peut-être, ça c'est plus probable, selon moi, parce qu'on envoie un signal radio, et la radio, les fréquences, c'est quelque chose qui traverse l'univers à une vitesse folle, et on pourrait peut-être, en gros c'est ça, il y a beaucoup de multimillionnaires, des multimilliardaires qui investissent dans des radiotélescopes pour justement avoir une preuve radio de l'existence du
Le SETI, c'est-tu ça? Ça existe-tu encore? SETI, qui était comme une organisation qui allait chercher du financement privé, qui demandait même à un certain moment donné, je me souviens, je l'avais fait même, on pouvait télécharger une application sur son ordinateur qui ouvrait un port dans notre ordinateur qui permettait d'utiliser la puissance de calcul de notre ordinateur, la mettre en ferme, si on veut, avec d'autres ordinateurs partout sur la planète pour permettre d'analyser des signaux, tout ça, puis qu'eux n'aient pas à acheter d'équipement en utilisant les ordinateurs des gens ça. Bref, c'est une organisation, ça, qui, justement, étudiait les signaux qui arrivent de l'espace dans l'espoir de tomber sur un signal intelligent éventuellement.
Ah, ben c'est ça, il y a plein de projets amateurs, il y a des projets privés, il y a des projets publics, il y a des projets gouvernementaux. Mm-hmm. Au total, là, on ne sait même pas le chiffre exact de radiotélescopes, mais on sait qu'il y en a des milliers et des milliers sur Terre.
Souvent, on voit ça dans les films, dans le désert aux États-Unis, des gigantesques soucoupes tournées vers le ciel. Mais là, c'est pas une, là, c'est des dizaines de gigantesques antennes paraboliques tournées vers le ciel pour capter les signaux qui s'en viennent vers nous.
C'est ça. Puis tout cet argent-là, des milliards de dollars,
c'est beaucoup d'argent,
des antennes énormes partout sur la planète, tout ça, c'est le principe de curiosité de l'être humain, de « on veut un signal à radio d'ailleurs
». Ah oui.
C'est ça qu'on cherche. Alors, petite information scientifique, là, technique. La radioastronomie, c'est une branche récente de l'astronomie, plutôt récente, depuis quand même à peu près une centaine d'années. Ses débuts découlent de la découverte accidentelle en 1933 par Karl Jansky. C'est un ingénieur de laboratoire. Lui, il étudiait les signaux radio émis par les étoiles. Et le premier radiotélescope est construit en 1936 par l'astronome amateur Grote Reber, qui durant 10 ans reste le seul à observer cette nouvelle source de données sur le cosmos. Et ensuite, les travaux sur les radars durant la Seconde Guerre mondiale accélèrent la mise au point des technologies qui vont être mises en œuvre par les radiotélescopes. Alors, c'est vraiment à la Seconde Guerre mondiale là, qu'il y a un bond phénoménal avec...
Qu'on le veuille ou non, un conflit de cette ampleur-là fait avancer la technologie. La technologie des radars, qui était à ses premiers pas au début de la Deuxième Guerre mondiale, quand on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu des avancées absolument exceptionnelles là, à ce niveau-là, de la détection, les antennes, les communications sans fil. Tout ça a avancé en l'espace de 5 ans là, à une vitesse phénoménale.
Exactement. Et justement, au cours des décennies 1940 et 1950, les astronomes découvrent les émissions radio de la Lune, des radiogalaxies et de Jupiter. Mais la découverte majeure est celle de l'arrêt d'émission de l'hydrogène neutre dans la fréquence 21 cm qui émet l'ensemble de notre galaxie, ce qui nous a permis en gros là, de cartographier notre galaxie pour la première fois. C'est grâce aux radiotélescopes.
Ah! On y était avec les oreilles plutôt qu'avec les yeux.
Exact.
C'est bien ça.
Encore une fois, la physique, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça. Le premier radiotélescope, c'est le radiotélescope d'Arecibo, situé à Arecibo sur la côte nord de l'île de Porto Rico. Il a été jusqu'en 2016 le plus grand radiotélescope simple jamais construit. Il collecte des données radioastronomiques, d'aéronomie terrestre, des données de toutes sortes, le planétaire pour les scientifiques mondiaux. Et malheureusement, le 20 septembre 2017, l'ouragan Maria l'a détruit. L'ouragan a brisé les antennes d'alimentation de 29 mètres du radiotélescope et sa chute de 150 mètres a perforé le fond du radiotélescope. C'est énorme. Il y a plein de films qui ont été tournés là. James Bond.
Quand on les voit marcher dans une antenne parabolique gigantesque, là, c'était souvent cette antenne-là qui était utilisée à des films d'extraterrestres. L'arrivée, je pense.
Parce qu'il est dans le sol. Il est comme...
Ben, c'est ça. Donc, c'est facile de tourner des images. Et c'est ça. Souvent, les films d'extraterrestres, justement, de découverte d'extraterrestres ou de premier contact avec les extraterrestres, souvent, on avait des images de cette fameuse gigantesque antenne-là qui était aménagée à même le sol.
On va y aller avec les deux plus gros projets d'antennes de radiotélescope au monde. Allemand, est un radiotélescope interféromètre millimétrique. Là, pour les termes, puis tout, là, je l'avoue, là, je
suis pas expert. Ouais, non, c'est ça, moi non plus. Moi non plus.
Ben, en gros, il y a 66 antennes. Donc, ça, c'est.
Donc, ça, c'est des fermes d'antennes, comme on voit aussi dans d'autres films. Des fois, là, on a un hélicoptère qui survole un groupe d'antennes gigantesques. C'est ce genre de projet-là.
Et celui-là, il comporte 66 antennes installées sur le haut plateau, 5100 mètres d'altitude du désert d'Atacama au Chili. Cela résulte d'une collaboration entre l'Europe, les États-Unis, le Japon. Inauguré en 2013, il permet des observations dans les fréquences comprises entre 84 et 950 GHz avec une résolution spatiale maximale de 20 millisecondes d'arc. C'est incroyable. Hein,
On est rendu à un niveau. Là,
c'est un domaine, comme les scientifiques geeks qui connaissent.
Oui, ceux qui trippent sur ce genre d'études-là.
Mais dans ma tête, moi, ce que je comprends, ce que je retire, c'est qu'il y a 66 grosses antennes qui permettent de capter.
Écoute l'espace. <C'est ça. rire>
On va y aller avec le dernier gros projet, le Square Kilomètre Array. Mon anglais là-dessus, Square Kilomètre Array. C'est un radiotélescope interféromètre qui doit permettre l'observation dans les fréquences comprises entre 0,06 et 35 GHz, combinant des réseaux de milliers de télescopes implantés en Australie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, et sa surface collectrice agrégée doit atteindre à terme 1 km². En gros, sa construction s'échelonne entre 2018 et 2030. Donc, on continue.
C'est un projet qui est en développement. Ça veut dire veut avoir des antennes partout sur la planète. Puis on dit que la surface complète va être 1 km², c'est gigantesque.
Exactement. Ça, c'est le plus gros projet, là, le Square Kilomètre Array. C'est une collaboration.
Et si on continue à investir là-dedans, Tristan, parce que je me souviens, là, il y avait eu, je pense que c'est le GMS qui appelait un des premiers signaux qu'on avait capté de l'espace, qu'on pensait que c'était un signal extraterrestre, puis finalement c'était une étoile ou un pulsar ou quelque chose là, qui émettait des signaux. Et là, souvent, on a démenti, finalement, ce qu'on entend, c'est des étoiles, c'est une étoile mourante, c'est nos propres planètes qui émettent des signaux qu'on capte avec ces antennes-là. Et à un moment donné, il y a eu comme, je me souviens là, de mon vivant, là, quand j'étais plus jeune un peu, à un moment donné, on a comme dit, ces projets-là, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce qu'on entend de l'espace, c'est n'importe quoi. Il y a plein de signaux qu'on capte qui sont pas nécessairement intéressants pour la recherche de vie dans l'espace. Et là, à un moment donné, ça a comme repris de la vitesse, ces projets-là. Exact. Et là, on s'est rendu compte qu'en ayant la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut aller tellement loin, et on peut capter tellement de sortes de signaux et les distinguer. C'est ça qui est important, c'est que là, maintenant, on est capable de distinguer beaucoup de signaux, de dire ça vient d'une étoile, ça vient d'une planète, ça vient d'ici, ça. Alors là, on est capable de démêler tout ça maintenant, qui fait qu'on recommence à en développer des gigantesques comme celui-là, là, qui est jusqu'en 2030. Qui permet d'écouter encore dans l'espace. Et là, on pense que c'est de là que ça va venir probablement les premiers contacts ou les premières preuves pourraient venir de là.
Exact, c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, on est capable, comme tu le dis, c'est exactement ça, de décortiquer le son. Viens-tu d'une planète? Viens-tu d'un soleil? Viens-tu d'un trou noir? Ou c'est un code très, très clair qui provient d'une autre civilisation avec des métadonnées, des bits en bits, tout ça.
On est capable
de coder de l'information dans les messages radio. Donc, c'est pour ça que même Stephen Hawking, lui, croyait à ça.
Absolument. Je pense qu'il faisait partie de ceux qui pensaient que l'univers étant infini, c'était presque impossible qu'il n'y ait pas autre chose que notre petit micro-grain de sable qu'est la Terre dans toute cette immensité-là. Mais on est en train de d'enregistrer une émission. L'émission sera diffusée sur les ondes de la radio à Havre-Saint-Pierre, mais aussi en format balado-diffusion, en podcast. Mais quand l'émission va passer sur les ondes de la radio, ça veut dire que là, l'émission va jouer en format préenregistré, va être envoyé à un émetteur. L'émetteur local dans la station de radio va l'envoyer à un émetteur global qui est dans une antenne. Cet émetteur-là va émettre des ondes à une certaine fréquence qui est le 95.1 ou 97.7 dans notre région, dans notre petit coin du monde. Mais ces ondes-là s'en vont aussi ailleurs. Là. Ça veut dire que un télé ou un radiotélescope extrêmement puissant d'une autre civilisation sur une autre planète pourrait soudainement nous entendre être en train de jaser d'eux autres, justement, parce que les ondes auraient été captées par leur radiotélescope extrêmement puissant. C'est tiré par les cheveux, c'est extrêmement poussé, ce que je dis là. Mais ces ondes-là s'en vont quand même ailleurs. Là. C'est pas dirigé directement dans la radio des gens qui écoutent. C'est dirigé dans l'atmosphère, dans l'univers. Ça, Donc, il y a des milliers d'ondes comme ça à toutes les secondes qui sont émises par la Terre. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent ailleurs, qui font exactement le même genre de recherche scientifique que nous, on fait en se questionnant « Y a-t-il d'autres vies ailleurs dans l'univers? » Et c'est nous autres l'autre vie, c'est nous autres les extraterrestres pour eux. Et ils vont peut-être capter justement ces ondes-là éventuellement par le même genre de technologie.
Exactement. Et c'est tellement pertinent. Puis c'est tellement complexe, t'sais, les ondes radio. Là, Kepler, là, le télescope, c'est assez concret quand même. Même si c'est complexe aussi au niveau de la physique optique, là, les ondes radio, là, c'est vraiment touché. Je veux dire, d'analyser les ondes radiophoniques mathématiquement, scientifiquement, pour vrai, moi, c'est un mystère total. Mais ce que je trouve, c'est que je trouve ça passionnant quand même. T'sais, je comprends qu'on est capable. Je sais que l'humanité, on est rendu là. Par contre, demandez-moi pas à moi d'aller analyser une onde radio, là, c'est loin de là. Par contre, c'est fou. Ça prouve à quel point on est rendu loin dans la physique de tout genre. Fait cocasse.
Ouais, vas-y donc.
Avec un simple récepteur radio et avec une antenne dipolaire horizontale de deux éléments de 2 à 3 mètres et demi. Donc, en gros, là, si on se patente
un amancheur fait maison.
Exactement. On peut intercepter le bruit radio électromagnétique du Soleil de la planète Jupiter sur les ondes AM.
Ah!
Alors, sur une bande de fréquence, là. Et donc, on pourrait mettre ça, là, une bande AM. On patente notre pebble. Là,
Puis on s'en va sur la bonne fréquence pour écouter le Soleil, par exemple. On pourrait capter les bruits que le Soleil fait.
Exact. On peut le faire facilement, là. C'est quand même n'importe qui pourrait le faire. On s'en va sur Internet. On écrit radio, récepteur radio amateur. Et on peut écrire aussi « antenne dipolaire ». Et là, on va avoir toutes sortes de vidéos pour comment bâtir son antenne comme ça. Et le bruit radio-électromagnétique de Jupiter se traduit sur haut-parleur par un bruit de petites vagues rapides.
Ah, ouais! Donc,
ça pourrait être une expérience scientifique intéressante à faire avec les enfants, si jamais vous voulez faire ça, là, écouter le son des planètes dans des speakers, dans des haut-parleurs.
Ben oui, c'est spécial.
C'est possible de le faire sur les ondes AM. J'en revenais pas, je disais ça.
Ben non, puis c'est, je veux dire, on revient dans le temps, là, parce que là, bon, on parle, on fait de la radio. La radio, là, comme on fait, là, je veux dire, pas de radio complexe ou quoi que ce soit. Nous, on est à la radio, on émet de la musique, on émet nos voix. Cette technologie-là, on remonte au temps, là, Marconi, Tesla, Nikola Tesla, c'est des vieilles, vieilles technologies. Là, dans notre développement technologique humain à nous, c'est des vieilles technologies. Là, on est rendu ailleurs. Là, on est rendu qu'on peut charger des téléphones cellulaires sans les brancher juste par le champ électromagnétique. Il y a un paquet d'affaires qu'on peut faire que ces technologies-là sont considérées comme des vieilles technologies. Mais ces technologies-là qui ont été développées par Nikola Tesla servent encore aujourd'hui parce que les radiotélescopes qu'on établit partout là, jusqu'en 2030, ils utilisent la même technologie que ces personnes-là, ces inventeurs-là ont développé à l'époque.
Exactement.
Nikola Tesla, son grand rêve, c'était de transmettre l'électricité sans fil. Mm-hmm. C'était de créer des stations hydroélectriques, mais des stations électriques où on pouvait alimenter des maisons sans qu'il y ait de fil à passer.
Oui.
C'est ce genre de choses-là qui lui voulait développer ou qui a inventé ou qui a imaginé qui servent encore aujourd'hui. Puis on se rend compte que c'est à la base de tellement de choses que finalement, on revient à cette vieille mentalité-là ou cette vieille technologie-là des ondes qui nous entourent. Exact. Parce qu'on est entouré d'ondes. On émet des ondes. Tristan, on a des champs électromagnétiques tous les deux. On émet comme personne, j'émets des ondes. T'en émets, le micro en émet, le plancher
exactement.
En émet. Tout émet des ondes. Et on se rend compte que quand on revient à l'essentiel, à la base, c'est ça qui va peut-être nous permettre de finalement explorer le reste de la galaxie et de l'univers éventuellement. C'est de revenir à la base comme ça.
Alors, c'est exactement ça. Moi, ça me fait capoter.
On en c'est parce que mon cerveau roule à 100 000 à l'heure. Moi, depuis le début, là, ça vire dans ma tête. Là, ça va vite. Là.
Puis, petite parenthèse comme ça, là, toutes les ondes radio qu'on envoie dans l'univers, ça prend des années et des années-lumière avant d'atteindre certaines autres galaxies. Donc imaginez, juste pour le fun, là, on rigole, mais une planète qui a de la vie ailleurs, mettons sur la galaxie Andromède, et puis qu'eux autres recherchent des ondes radio, et là, ils n'en trouvent pas, jusqu'à ce que toutes les ondes de la Terre, là, tu sais, depuis comme 30 ans.
Arrive en même temps.
Arrive d'un coup.
Le gars qui a les écouteurs sur la tête, il va faire un saut.
sur la galaxie, la planète, de genre, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on est une des planètes je me dirais peut-être la plus grande émettrice d'ondes.
On en émet.
On est dans
ondes,
le top, en tout cas.
C'est hallucinant, juste le trafic de satellites qui émet, qui reçoit, qui retransmet, qui tourne autour de la Terre. Là, juste, si on pouvait les voir, là, juste, on regarde le ciel, puis on voit tout ce qui se passe dans le ciel. Là.
Exact.
C'est incroyable la quantité de choses qui volent autour de la Terre actuellement. Et tout ça émet, reçoit, retransmet. C'est gigantesque. Là.
Peut-être qu'en ce moment, on est en train de polluer les ondes universelles. Il y a plein de planètes qui sont comme...
Ah ouais, ben c'est ça. Là, il y a un extraterrestre quelque part. Il est en train de regarder la finale de hockey galactique. Et là, tout d'un coup... Nous nous excusons des troubles techniques.
Provenant de la planète Terre.
Mais c'est ça, c'est nos ondes qui viennent d'envahir le réseau.
Exact. Les ondes sont encore les terriens qui utilisent trop d'ondes.
C'est moi, ce qui me fait triper avec ça, Tristan, c'est ça, c'est l'immensité de distance entre les différents corps célestes qui fait que quand on va nous entendre, si quelqu'un nous entend sur une autre planète, là, actuellement, lui nous entend, c'est que ça va peut-être faire 100 millions d'années qu'on a fait cette émission-là.
Exactement.
Et lui va l'entendre pour la première fois parce c'est vrai. À ce moment-là que les ondes vont se rendre. C'est... Albert Einstein avait dit le voyage dans le temps est techniquement possible avec des calculs mathématiques. Physiquement possible, non. En tout cas, pas pour l'instant. Mais, écoute, quand j'étais au cégep, il y a une éternité de ça, j'avais un prof en astronomie qui était un tripeux.
Okay.
Un tripeux un peu hippie, c'est bord, un tripeux de « Ah, j'imagine plein d'affaires dans ma tête ». À un moment donné, j'avais bouffé avec lui, on s'était fait une bouffe, et on discutait de ça, justement, de l'immensité de distance. Et là, on avait imaginé, on s'était fait un dessin, puis tout ça. Moi, je suis sur la Terre, là, maintenant. Uh-huh. À ce moment-ci, il est 10h07, on est le 11 mars 2020. Et là, je suis capable instantanément me projeter comme ça. Je me téléporte sur une de ces planètes-là qu'on a découvert qui peut avoir la vie. Je me déplace là. Fait qu'à 10h08, je suis rendu sur l'autre planète qui était, mettons, 20 années-lumière d'ici.
Mm-hmm.
Fait que là, on parle de 20 années pour que la lumière se rende entre la Terre et cette planète-là.
Ouais.
Je m'installe avec un télescope hyper puissant et je regarde dans le télescope. Je vais me voir il y a 20 ans. Parce que la lumière a pris 20 ans à voyager. Fait que je vais me voir quand j'avais 24 ans dans ce télescope-là. Parce que je suis à 20 années-lumière. Mais là, quand on rouvre la porte à ça dans notre tête, là, c'est comme là, on a comme une surcharge de stock qui se passe dans notre cerveau parce que c'est comme trop. Là.
Ah, ben
mais
oui,
c'est vraiment
vrai,
ça.
Ben oui,
c'est ça prend 20 ans pour que la lumière parte de la Terre et se rende à cette planète-là. Fait que si en une seconde, je peux aller sur cette planète-là et regarder la Terre, ben je vais voir la Terre il y a 20 ans. Fait que je voyage dans le temps d'une certaine manière. Ouais, je peux pas avoir d'impact sur les événements, mais je peux les voir comme c'était il y a 20 ans.
Mm-hmm.
Et là, ça rouvre la porte à tellement de théories farfelues dans ma tête, ce genre de scénario-là, que là, à un moment donné, je sais plus où m'en aller parce qu'il y en a trop. C'est la même chose, mais là, on parle surtout des ondes, des sons émis, des ondes électromagnétiques émises, mais c'est le même principe. Ça veut dire que si on capte un signal extraterrestre éventuellement, le signal extraterrestre peut souvent avoir 1 million d'années.
Exactement.
Parce que la distance est tellement longue à parcourir, on ne sait pas vraiment à quel moment ce signal-là a été émis à l'origine.
Alors, c'est exactement ça. Ça. Justement, je vais finir avec un truc qui est exactement en lien avec ça.
Oui.
C'est exactement ça. Le message d'Arecibo. As-tu déjà entendu parler du message d'Arecibo?
Ça ne dit rien.
Ça, c'est un message radio qui a été émis vers l'espace à l'occasion de la transformation du radiotélescope d'Arecibo, le premier radiotélescope en 1974. Alors là, on le transformait, on l'améliorait, et pour l'occasion, on a décidé d'envoyer un message radio dans l'espace. Le message est envoyé le 16 novembre 1974 vers la masse globulaire M13, donc le plus communément appelé la masse d'Hercule.
D'accord.
Qui se trouve à environ 22 200 années-lumière et consiste en 1679 bits. Ça, c'est le message qui est de 1679 bits. Le nombre 1679 est choisi parce qu'il est le produit de deux nombres premiers et ne peut donc être divisé qu'en 73 lignes et 23 colonnes. Bon, ça, c'est les scientifiques qui tripaient. cela suppose que ceux qui pourraient le lire choisiront de l'arranger de façon à ce qu'il y a des informations sur la Terre dans ce message radio. On peut, là, quand on le décortique facilement, l'information arrangée présente alors les numéros atomiques de l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore, les formules chimiques des sucres et bases dans les nucléotides de l'ADN, les nombres nucléotides dans l'ADN, la structure double hélice, bref, le croquis de l'être humain.
C'est ça, on a donné la recette de l'être humain, dans le fond.
Le croquis de l'être humain. On a aussi un dessin de l'être humain, genre avec les bras, les jambes. La population de la Terre.
À l'époque.
À l'époque, oui. On a une description de notre système solaire et une image du radiotélescope d'Arecibo avec son diamètre. Alors, c'est toutes sortes d'informations, là, un peu comme un message de bonjour.
Oui, c'est ça.
Une carte de visite. Une carte de visite.
Voici de quoi nous avons l'air et voici de quoi notre monde a l'air.
Exact. Et parce que le message mettra plus de 20 000 ans pour atteindre la destination voulue, eh bien, le message d'Arecibo est plus une démonstration de l'avancée technologique de l'humanité qu'un réel essai d'entrer en contact avec une civilisation extraterrestre. Quoique, aujourd'hui, en 2018, le message était 44 ans, il était à 44 années-lumière de la Terre, parce que ça fait 44 ans, donc aujourd'hui 46 ans. Donc, il est à 46 années-lumière de la Terre en ce moment, il se dirige tranquillement, donc il pourrait être capté par n'importe qui. Là, dans
Oui, c'est ça, peut-être qu'il y a un vaisseau spatial qui va passer, qui va dire « Hey! » On entend quelque chose.
Et vous pouvez aller voir le message sur Google Images. Là, je vous invite, vous écrivez « Message d'Arecibo ». Et il y a plein de gens qui se sont fait tatouer ce message-là.
Ah oui!
Parce que c'est super cool. Là, c'est super science-fiction technologique. Puis c'est un message codé radio, un peu comme une carte de bonjour aux extraterrestres. C'est
bien
épique.
Fun, ça.
Alors, allez voir ça, le message.
Et les sondes qui avaient été lancées aussi. Hein,
oui.
Les sondes Explorer, je pense.
Oui.
Qui devaient quitter notre système planétaire éventuellement. Et puis, on avait mis aussi à l'intérieur de cette sonde-là des livres. On avait mis un disque avec, il y avait des pièces musicales. Ouais. Il y avait de l'information encodée dans le disque aussi. Puis, on se disait, cette sonde-là va quitter à un moment donné, puis elle va se perdre dans la galaxie.
Exact.
Éventuellement, elle va peut-être être interceptée par une forme de vie intelligente et ils vont avoir des informations de base. Et là, les gens paniquaient à l'époque parce qu'on avait peur des extraterrestres. Ouais, mais là, vous leur dites tout ce qu'on est, là! Ils vont venir nous pogner, puis ils vont nous attraper. Mais ça date pas d'hier, ce principe-là, de dire on envoie des informations dans l'univers en espérant que peut-être, à un moment donné, ce soit capté, ce soit intercepté, ce soit entendu par quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour le décoder.
C'est dans la nature humaine d'être chaleureux et accueillant.
Il y a une époque où on pensait que la Terre était plate et qu'il y avait juste le continent de l'Europe et les alentours. Et là, on a développé la cartographie de la Terre. On a découvert qu'il y avait d'autres terres inexplorées, qu'il y avait d'autres populations qui vivaient ailleurs. Et tranquillement, pas vite, on étend notre territoire de découverte, si on veut. Et là, on est rendu loin. C'est plus l'autre bord de l'océan. Là, on parle d'années-lumière, de millions, de milliards de kilomètres à explorer. C'est gigantesque.
Alors, c'est fou. Pour les gens, je sais que j'en reviens souvent avec ça, là. Mais pour les gens qui n'ont pas vu le film Interstellar, regardez ce film-là. Si ça vous a parlé, le sujet d'aujourd'hui, si ça vous a intéressé, moi, je dirais que j'ai toujours trippé sur Star Wars, le Seigneur des Anneaux, je suis très geek. Mais Interstellar, là, c'est vraiment... je l'adore, ce film. C'est un niveau scientifique qui me fait capoter. Puis allez le voir. Jason, tu iras voir ce film.
Absolument, absolument. Je te dirais, là, ce genre de sujet-là, ça me passionne. Puis en même temps, ça me fait pas peur de dire « Ah non, les extraterrestres vont venir nous voir. » Mais en même temps, c'est que ça me fait sentir tellement petit, tellement minuscule, tellement insignifiant dans toute cette immensité-là. On dirait qu'à un moment donné, j'ai plus de souffle. Là. C'est comme, c'est trop. Il y a trop de possibilités, il y a trop d'affaires. Là, je regarde les maisons là, au bord de la rue, je dis, c'est rien ça. Juste en haut, je regarde le ciel, là, je vois pas, là, il y a des nuages comme c'est là, mais tout ce qu'il y a en arrière de ces nuages-là, c'est tellement immense, mon cerveau est pas capable de tout rentrer ça, là, de concevoir tout ça. Ça se peut juste pas. C'est immense.
C'est incroyable. Moi aussi, je suis pareil que toi. C'est incroyable. J'ai pas les mots. Des fois, quand je suis trop stressé, vous essayerez ça. Je m'imagine à côté de Curiosity sur Mars, l'engin spatial qu'on a bâti. Mais imaginez Curiosity en ce moment, que ça fait 10 ans qu'il est sur Mars, dans le sable, qu'il n'y a pas d'humain. La seule machine humaine, une des seules machines qui est là dans la poussière. Il n'y a pas de son, aucun être vivant. Là, on dirait que ça me calme quand je pense à Curiosity. Je suis comme, on pense au coronavirus, toute l'actualité sur la Terre et tout. Puis là, je pense à Curiosity qui est comme, ça me dirait que ça me calme.
Et t'es relax dans ce coin.
Exactement.
Personne t'a chalé.
c'est ça. Ça ressemble à ça.
Mais c'était le fun, ça. Ça fait différent un peu des sujets qu'on aborde habituellement. Puis on va y revenir aussi là, à des sujets là, plus farfelus un peu. Mm-hmm. Mais ça reste que ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une base scientifique. Là.
Mm-hmm.
On peut pas nier, on peut pas dénigrer cette base scientifique-là. On construit des appareils incroyablement sophistiqué et performant encore aujourd'hui. Au moment où on se parle, on travaille. Il y a des gens qui travaillent comme c'est là, qui vissent des vis, qui clouent des clous pour construire ces appareils-là. Et ça nous démontre que on a beau souvent arrêter ces genres de recherches-là et de dire on abandonne, il n'y arrivera rien, mais on y revient tout le temps.
Exactement.
Ça a commencé avec la planète Mars, ça a commencé avec les Martiens. Il y a des Martiens, il y a peut-être des extraterrestres à la planète Mars, mais là, on est rendu à un niveau complètement... tu l'as dit, il n'y a comme pas de mots pour décrire l'immensité de tout ça. C'est gigantesque.
Il y a peut-être aussi, imaginons, on parlait tantôt, il y a peut-être une planète habitable dans toutes ces planètes-là. Il y en a peut-être une qui a de la glace, il y en a peut-être une qui a de l'eau. Mais les scientifiques le disent pas, là. Mais il y en a peut-être une que c'est comme Pandora dans Avatar, là, tu sais. Planète habitable, qui sait?
Terre 2.
Exact. On sait pas, là. Peut-être qu'en ce moment, là, tu sais, c'est ça. Tu sais, on veut pas pousser la théorie trop loin. Mais si on s'amuse un peu, on pourrait dire qu'en ce moment, il y a 40 milliards de planètes où il y a des civilisations en ce moment, tu sais. C'est ça qui est complètement fou, là. Toutes les hypothèses sont possibles rendues là.
Ben là, on n'est plus au niveau de est-ce qu'il y a de la vie, mais bien est-ce qu'on va la découvrir rapidement ou à quel moment on va la découvrir, cette vie-là. Puis on l'a dit, ça peut être, elles sont peut-être à l'âge de pierre sur certaines planètes, alors que d'autres planètes sont peut-être rendues à un point technologique absolument hallucinant, qui dépasse nos films de science-fiction. Mais est-ce qu'on est au niveau de la bactérie ou on est au niveau des êtres prescients qui n'ont même plus besoin de sortir de leur lit et qui peuvent tout faire juste en réfléchissant? C'est incroyable. Là. Ça ouvre la porte à tellement, mais tellement, tellement, tellement de théories qui peuvent aller dans toutes les directions. On le sait pas, mais on sait que les chances qu'il y ait de la vie ailleurs sont très bonnes.
Alors, c'est fou. J'avoue que j'ai adoré parler de ça.
Ben oui, hey, c'était vraiment le fun.
C'est des choses qui me passionnent énormément. Puis j'espère que j'ai pu partager un peu cette passion-là.
Ben, je l'espère parce que ça a été passionnant comme sujet à aborder. Et ça fait, c'est sûr, un peu différent. Là, on était tombé plus dans le monde scientifique que dans le monde pseudo-scientifique.
plaisir. C'était super cool.
Hey, un gros merci, Tristan.
C'était cool. Merci à toi, Jason.
Puis merci à nos très nombreux auditeurs et fans qui nous écoutent en format balado-diffusion également. Alors, ben oui, on continue comme ça. Puis il y aura un épisode la semaine prochaine aussi.
On revient sur Terre.
Ah
oui.
On revient sur Terre.
Ça va être souvent ça. Tu sais, aujourd'hui, le reste de la journée, j'ai l'impression que ça va avoir un peu de difficultés.
Ça va être bizarre un peu, me semble. Juste faire nos petites affaires normales, notre petit quotidien, notre petite routine, elle va être plate aujourd'hui, me semble. Hey, bonne journée. Bye bye, tout le monde.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de.
Oh non, Internet a encore planté. Va encore falloir que j'appelle le service technique.
Le temps d'attendre pour parler à l'un de nos conseillers est de 3 heures.
3 heures plus tard.
Oui, bonjour, bienvenue chez Internet Québec. Comment peux-je vous aider? Allô? Bon, ça a l'air qu'il y a personne.
Pour un service Internet fiable et près de chez vous, faites affaire avec la RTC. Internet, télé, téléphone. Prenez les trois services pour économiser. 418-538-2451 ou en personne au 992 rue du Boulot, Havre-Saint-Pierre.